France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Mélanie Chalandon, Anouk Millot, Barthélémy Gaillard, Fanny Richer et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. Premier épisode de notre série consacrée aux villes contre l'État. Dans cette période qui s'ouvre en France d'élections municipales, on parle des villes dissidentes face aux pouvoirs centraux. Nous évoquerons demain Istanbul, ville clé du pouvoir turc. Jeudi, des métropoles dites rouges du nord de l'Italie. Aujourd'hui à New York, d'où ont été émises encore samedi de virulentes critiques contre Donald Trump et son attaque militaire du Venezuela, le nouveau maire Zoran Mamdani, un opposant résolu. In this moment of political darkness,
New York will be the light. En cette période d'obscurité politique, New York sera la lumière. Si quelqu'un peut montrer à une nation trahie par Donald Trump comment le vaincre, c'est bien la ville où il a grandi. Alors Donald Trump, parce que je sais que tu nous regardes, j'ai trois mots pour toi. Augmente le volume.
Turn the volume up.
Si vous voulez voir ce que les démocrates du Congrès souhaitent faire à l'Amérique, il suffit de regarder le résultat des élections d'hier à New York, où leur parti a installé un communiste à la tête de la plus grande ville du pays.
C'est le début d'un nouvel avenir pour la ville de New York. Un avenir où nous aurons une politique qui œuvre pour notre génération en faveur de l'accessibilité financière, qui lutte contre la crise climatique, qui combat la classe des milliardaires, qui prend le contrôle de notre gouvernement, qui s'oppose au fascisme et qui défend nos intérêts. New York se soulève et exige un avenir différent pour notre monde, pour notre pays et pour notre ville.
Pensez-vous toujours que Donald Trump soit fasciste, a demandé une journaliste à Zoran Mamdani le 21 novembre lors d'une conférence de presse commune que le tout nouveau maire de New York donnait avec le président pour leur première rencontre à la Maison Blanche. Zoran Mamdani tente un début de réponse un peu gêné, mais Donald Trump le coupe en lui mettant la main sur l'avant-bras. Laisse tomber, c'est bon, disons que je suis fasciste, c'est plus simple. Et il faut voir son sourire sincère et conciliant quand il dit ça. Le président sait être arrangeant quand il le veut. On a dit de cette rencontre qu'elle s'était bien passée alors que les deux hommes n'avaient cessé de s'invectiver l'un l'autre lors de la campagne pour les municipales et après l'élection de Zoran Mamdani, traité de communiste fou à 100% ou de djihadiste marxiste par Steve Bannon. Pas tellement épargné non plus au sein du Parti démocrate, le jeune élu de 34 ans a été adoubé par 50,4% des électeurs, applaudi dans le monde entier autant que craint. Il a prêté serment la semaine dernière dans la nuit qui séparait 2025 de 2026 et dans la gueule grise d'une station de métro désaffectée, peut-il faire de New York un laboratoire de l'anti-Trumpisme et du renouveau du Parti démocrate? Nous en parlons avec nos invités. Bonjour Charlotte Rocoquillon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse rattachée à l'Institut français de géopolitique, journaliste spécialiste des États-Unis. Vous avez publié aux éditions de la Maison des sciences de l'homme en 2024, Harlem, une histoire de la gentrification. Or, les questions de logement sont centrales dans le programme du nouveau maire de New York, nous en parlerons. Bonjour Nadia Marzouki.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes politiste, chargée de recherche au CNRS, série Sciences Po Paris, membre en 2023-2024 de l'Institute for Advanced Study de Princeton. Vous travaillez sur les liens entre religion, droit et démocratie. Or, Zoran Mamdani met en avant aussi sa religion, l'islam. Vous êtes notamment l'autrice de l'ouvrage « L'islam, une religion américaine ». C'est une question que vous posez avec un point d'interrogation et c'est paru au Seuil en 2013. Alors, on va surtout parler de Zoran Mamdani comme maire de New York, de ses promesses et réalités municipales. Mais l'attaque militaire des États-Unis contre le Venezuela samedi l'a aussi fait réagir comme opposant politique à Donald Trump. Prendre d'assaut une unilatéralement une nation souveraine constitue un acte de guerre et une violation des lois fédérales et internationales. C'est ce que Zoran Mamdani a écrit ce week-end sur ses réseaux. Charlotte Recoquillon, qui d'autre que lui porte ce discours aujourd'hui, est-il toujours aussi prompte à commenter la politique internationale de Donald Trump ?
Il n'est pas seul, évidemment, à porter ce discours. Il y a énormément de... D'ailleurs, même parmi les démocrates de l'establishment démocrate, que peut-être aujourd'hui dans mes analyses, je vais critiquer un petit peu plus durement, ils ont pris la même position en critiquant cet acte unilatéral et la non-consultation du Congrès, en fait, parce qu'il y a aussi un petit peu un raccourci et une prise de pouvoir par rapport au Congrès qui est problématique à l'échelle intérieure et une désapprobation sur le plan extérieur de cette intervention, des implications que ça va avoir, etc. Il y a d'autres maires que Zoran Mamdani qui peuvent être extrêmement fermes. Je pense au maire de Chicago, par exemple, Brandon Johnson. Mais voilà, Zoran Mamdani va être dans son rôle. En plus, il y a beaucoup de Vénézuéliens à New York. Et en plus, comme Maduro a été incarcéré dans cette ville, ça le rendait d'autant plus légitime à prendre position.
À s'exprimer, c'est vrai qu'il dit aussi réagir en tant que maire de New York au nom des dizaines de milliers de Vénézuéliens établis dans la ville, qui pour certains font partie de ses électeurs. D'ailleurs, est-ce qu'on sait là-dessus, est-ce qu'on a une idée de à qui il s'adresse aussi parmi ses électeurs et les citoyens de New York quand il prend position sur le Venezuela, Charlotte Recoquillon?
Alors, il dit qu'il pense aux Vénézuéliens, mais d'une manière générale, New York, c'est une ville où il y a 4 personnes sur 10 qui sont nées à l'étranger. Et dans un contexte où la politique migratoire de Donald Trump extrêmement agressive les menace un peu tous. Donc c'est une entrée vers sa prise de position sur l'immigration.
Il a déjà, par ses déclarations sur la politique étrangère de Donald Trump, Nadia Marzouki, fait réagir et le Parti républicain et le Parti démocrate. Ses positions sur la Palestine, par exemple, au cœur de son identité politique, dit-il. Il a promis, par exemple, de faire arrêter Benjamin Netanyahu s'il venait à New York, de le capturer pour utiliser cette fois le mot à bon escient, puisque le Premier ministre israélien est, comme Vladimir Poutine d'ailleurs, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il dit à ce sujet, Nadia Marzouki, au sujet de Nicolas Maduro et de l'attaque militaire des États-Unis contre le Venezuela, qu'il continuera à suivre la situation et à émettre des lignes de conduite adéquates. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire ?
Alors, ce qui est assez remarquable et astucieux dans la stratégie rhétorique de Zoran Mamdani, c'est qu'il intervient sur une question de politique étrangère, mais à partir de ses prérogatives de maire de New York, il insiste tout le temps sur le fait qu'il s'exprime en tant que celui qui doit défendre les New-Yorkais, tous les New-Yorkais. Et donc, parce que bien vite, certains se sont empressés de le remettre à sa place en lui disant, en tant que maire de New York, vous n'avez pas à vous exprimer sur la politique étrangère, que ce soit pour Netanyahou, pour Maduro, etc. Et lui reste tout à fait dans les limites de ses prérogatives de maire de New York. Toute sa problématique, c'est « To whom does New York belong ?» À qui appartient New York ? C'était la question qu'il a posée dans son discours inaugural. Et c'est à partir de cette posture, de cette position de défenseur de tous les New-Yorkais, y compris la grande proportion d'électeurs et d'habitants d'origine latino, qu'il se positionne. Et donc, en ce sens, il a toute sa légitimité. Bien évidemment, il n'a pas des prérogatives importantes en ce qui concerne Maduro, puisque la prison dans laquelle il est incarcéré est une prison fédérale, donc il se trouve à Brooklyn, mais lui ne peut évidemment rien faire. Mais son discours consistait à d'abord tenir une position de principe et ensuite à dire « moi je suis là pour défendre le bien-être de tous les New-Yorkais, quel que soit leur statut en termes de résidents légaux ou pas, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion ». Donc c'était vraiment ça qui était en jeu et qui permet de comprendre vraiment la finesse de la rhétorique de Mamdani.
Et c'est bien ce qu'il a voulu dire en prêtant serment la semaine dernière dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans l'une des toutes premières stations du métro de New York qui a été fermée il y a maintenant longtemps, je crois en 49, la station Old City Hall.
Merci beaucoup à tous d'être là. Bonne année aux New-Yorkais, à ceux qui se trouvent dans ce souterrain et au-delà. J'ai hâte de voir tout le monde demain quand on commencera notre mandat. C'est un véritable honneur et un privilège de toute une vie. Je prête serment ici pour devenir le maire de la ville de New York, dans cette ancienne station de métro. Une preuve de l'importance des transports publics, de la vitalité et de la santé de notre ville.
Une station de métro choisie pour le symbole « Notre métro nous relie tous », a-t-il dit avant de poser la main sur un exemplaire du Coran tendu par sa femme et avant d'inviter ensuite les New-Yorkais à une block party, une grande fête de quartier le long de Broadway. Nadia Marzouki, comment faut-il comprendre et lire ce geste de poser sa main sur le Coran tendu par sa femme? Vous disiez il se veut le maire de tous les New-Yorkais. Est-ce qu'il y a néanmoins une revendication, un positionnement, disons, identitaire parfois chez Zohran Mamdani?
Alors, pendant toute la campagne, Mamdani a dit « Je suis un maire musulman et je ne vais pas avoir honte ni me cacher. Je ne vais pas avoir honte de qui je suis, de la façon dont je mange, de mes origines. » Mais il n'a pas du tout mené une campagne identitaire, absolument pas. Il a mené une campagne basée sur un programme de justice sociale. Et il a été soutenu par une coalition complètement interconfessionnelle et œcuménique. On y reviendra peut-être. Mais je voudrais revenir sur ce geste du Coran parce que c'était pas n'importe quel Coran. C'était le Coran d'un écrivain noir né à Porto Rico, Arturo Schoenberg, qui n'était pas musulman et qui collectionnait des livres rares et qui en 1924 a donné ce Coran à la New York Public Library, dont la curator a dit qu'elle le ferait voir ensuite à tous les New-Yorkais comme élément de la tradition et de la richesse culturelle de New York. Ça, c'était dans la cérémonie que vous avez évoquée dans votre clip. Et le lendemain, lors de la cérémonie publique, là, il a prêté serment sur les deux Corans de ses grands-parents respectifs. Dans cette inauguration, il y avait également l'inauguration du nouveau comptroller, Mark Levine, et puis la cérémonie de Jumaane Williams, le public advocate. Mark Levine a prêté serment sur la Bible hébraïque et Jumaane Williams sur la Bible chrétienne. Et Mark Levine a dit, c'est vraiment remarquable et c'est ça New York. Et c'est vraiment le reflet de la campagne de Mamdani, ce caractère écuménique, interconfessionnel, où vous avez trois élus qui prêtent serment chacun sur leur texte sacré respectif, avec une prière menée par l'imam Latif, mais accompagnée d'un tout un personnel œcuménique, un rabbin, une personne représentant les hindouistes, différentes églises chrétiennes, et tous sont venus pour célébrer vraiment ce message œcuménique que voulait faire passer Mamdani pendant toute sa campagne, avec l'accompagnement de toute cette coalition qu'il a portée au pouvoir.
Une coalition qui, pendant sa campagne, était que vous qualifié de judéo-musulmane dans un long article que vous avez publié récemment, parce que des associations juives de gauche de New York ont joué un très grand rôle. La Jews for Racial and Economic Justice, par exemple, qui se mobilise depuis le milieu des années 2010 contre l'antisémitisme et l'islamophobie, qui a réellement fait du porte-à-porte pour désamorcer les récits disant de Mamdani qu'il était antisémite. Et ça a marché dans l'électorat du nouveau maire de New York?
Oui, ça a marché au sens où vraiment ce qui fait l'originalité, la singularité de cette victoire de Mamdani, c'est qu'elle se situe au croisement de la mobilisation de ces deux catégories assez nouvelles politiquement, la jeune génération de juifs de gauche qui renouvelle une tradition très longue à New York d'un judaïsme de gauche, du judaïsme socialiste dans la tradition du Bund, etc. et qui est vraiment dans un plein renouveau depuis les années 2014. Et puis la tradition, pour le coup, beaucoup plus récente depuis les années 2015, d'une affirmation d'une génération de jeunes élus musulmans de gauche qui, là, comme un peu comme Mamdani, n'ont pas peur ou honte de dire qu'ils sont musulmans, mais se mobilisent sur une plateforme qui n'a rien à voir avec une plateforme identitaire, mais vraiment une plateforme de gauche sur les questions d'éducation, de santé, d'accès aux soins, aux transports, etc. Et c'est vraiment cette coalition-là entre ces jeunes juifs juifs de gauche et ces jeunes musulmans de gauche qui a porté Mamdani au pouvoir, bien sûr avec d'autres groupes religieux, culturels, ethniques, professionnels, mais elle a été un peu la tête de pont de cette campagne.
Une nouvelle génération politique, une nouvelle génération aussi tout court de personnes qui ont vécu les attentats du 11 septembre 2001, de loin certes, mais avec une forme de traumatisme. Lui, Zohran Mamdani, il avait 10 ans lors des attentats du 11 septembre 2001 et il a vu aussi cette montée de l'islamophobie à New York, soutenue parfois dans les discours politiques, dans les actes politiques, avec cette génération qui, Charlotte Roquequillon, dit aujourd'hui, on est nous aussi des enfants de l'Amérique, on veut la démocratie et la liberté. Il s'est à replacer dans ce contexte-là aussi de la ville de New York.
Oui, bien sûr, et c'est pour ça que ça reste un acte politique très important de prêter serment sur le Coran, par exemple, parce que on sait depuis longtemps, surtout parmi les progressistes, c'est un discours qui revient beaucoup, de l'importance de la représentation en politique. Et l'exclusion de la vie civique, de la vie politique, elle passe aussi par la non-représentation des élus et par l'homogénéité sociale, raciale, etc. Donc de ce point de vue-là, Zohran Mamdani incarne un nouveau modèle. Il n'est pas le seul, il n'est pas inédit, mais il vient quand même vraiment capter ce moment-là. Et ça s'inscrit aussi dans cette, on va dire, nouvelle génération qui, depuis presque deux décennies maintenant, une bonne quinzaine d'années, toute cette éducation politique qui a été faite par le mouvement Black Lives Matter et tout le mouvement renouvelé pour la justice raciale, qui en fait vraiment forme, sensibilise les gens à des rhétoriques comme celle de l'anti-impérialisme, de la discrimination systémique, du racisme institutionnel, etc. Et donc les gens, cette génération, est outillée pour comprendre les rapports de domination et d'exclusion dans la société, les rapports de pouvoir. Et je pense que c'est cela aussi qui explique l'élection de Zohran Mamdani.
Donc un mouvement par le bas, Nadia Marzouki, y compris de la part des organisations professionnelles qui se sont beaucoup mobilisées pour son élection.
Oui, alors c'est vraiment la tradition du organizing, ce terme un peu difficile à traduire, qui a été à la base de ce succès. On parle d'environ 100 000 volontaires qui se sont mobilisés pour faire du porte-à-porte, du démarchage, pour aller parler aux gens, essayer de les persuader. Et ces volontaires étaient organisés à la fois donc au sein d'organisations confessionnelles, des organisations professionnelles, beaucoup de syndicats, les syndicats représentant des fonctionnaires, du secteur de la santé, des mouvements pour les droits des animaux, pour l'environnement comme Sunrise. Des mouvements plus à gauche comme le Working Family Party, le DSA. Donc c'était vraiment une coalition absolument remarquable qui a utilisé les méthodes qui avaient été celles de la campagne de Barack Obama. Donc Tasha Van Auken, qui a été la stratège responsable de toute cette mobilisation, était quelqu'un qui avait fait la campagne de Barack Obama et qui est un peu une élève de l'école de Marshall Gans, ce penseur, cet intellectuel, maintenant professeur à Harvard, mais qui avait toute une vie de militant dans ce monde de l'organizing, qui avait déjà eu un rôle clé à l'époque des droits civiques, etc. Donc c'est vraiment toute cette généalogie-là, c'est qui était à l'œuvre et qui était mise en pratique lors de la campagne de Mamdani et qui a vraiment contribué à quelque chose de très important pour le thème de cette émission sur la question de la résistance. C'est pas simplement de l'antagonisme, de l'opposition, c'est la création de liens. Et si Mamdani a opéré quelque chose de singulier et d'unique, c'est vraiment là que ça se situe. C'est dans la création de relations, dans la création d'un imaginaire, de quelque chose de positif. On n'est pas simplement... On a commencé avec la résistance à Trump et c'est très important, mais c'est en fait secondaire. Si ça marche, c'est parce qu'il est quelqu'un, peut-être l'un des seuls aujourd'hui aux États-Unis, qui insiste sur la construction de quelque chose de positif par la création de ces liens au niveau grassroots, niveau local.
Et notamment ces liens judéo-musulmans et chrétiens de gauche, oui, aussi, qui vont à l'encontre, enfin, qu'il est intéressant de lire à l'aune de la prévalence des évangéliques aujourd'hui dans la politique aux États-Unis, cette prévalence qui écrase un peu tout. Et voilà, ces liens qui sont reconstitués sur le terrain à New York peu à peu. Le fait que Zohran Mamdani ait eu pendant sa campagne, Charlotte Rocoquillon, un adversaire démocrate comme lui, Andrew Cuomo, qui avait perdu la primaire au mois de juin, mais qui a décidé de se présenter quand même. Est-ce que c'est de la politique politicienne, entre guillemets, ou est-ce que ça révèle véritablement quelque chose des fractures politiques au sein même du Parti démocrate ?
Ça révèle quelque chose des fractures au sein du Parti démocrate et plus largement de la gauche américaine. Et ça suggère aussi que New York ne sera sans doute pas un laboratoire de la résistance à grande échelle ou en dehors de ce qui est possible de faire à New York. Donc en effet, pour rappeler le contexte local, Andrew Cuomo était l'ancien gouverneur de l'État de New York. Il avait dû démissionner en 2021 à la suite d'accusations de harcèlement sexuel et de violence sexuelle et d'intimidation sur les femmes qui voulaient témoigner. Donc c'est un homme qui était sorti momentanément de la vie politique salie. Et qui est revenu donc en se présentant à la primaire donc pour la mairie de New York. Il a perdu cette primaire mais a décidé de maintenir sa candidature, ce qui dit quelque chose de la désunion du Parti démocrate, dont le leadership et l'establishment auraient dû immédiatement intervenir en disant non, c'est le candidat choisi qui est légitime pour être le candidat.
Ce que vous appelez establishment, c'est les figures du Parti démocrate qui sont là depuis longtemps, qui ont des positions un peu la droite du parti.
Les leaders du congrès, etc. Et les grandes figures du parti. Et ces grandes figures, justement, ont très très tardivement, et vraiment le couteau sous la gorge, finit par soutenir la candidature de Zohran Mamdani, avec le faux prétexte que c'était de la politique locale et qu'il n'avait pas à intervenir, alors que n'importe où ailleurs, quand un candidat démocrate avait une telle aura et une telle popularité, il l'aurait soutenu. Mais ces leaders démocrates sont sur une ligne politique tellement éloignée de celle de Zohran Mamdani, qu'ils ont vraiment freiné des quatre fers pour le soutenir.
Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement nouveau dans son programme de gauche qui pourrait aujourd'hui avoir inquiété les leaders du Parti démocrate, qui n'a pas comme candidat à la mairie de New York promis comme lui, par exemple, de s'attaquer à la crise du logement ?
Alors, c'est ce que disait Nadia Merzouki, et je pense que ce qu'il y a de nouveau, c'est cette dimension de construire du contre-pouvoir et de construire du pouvoir par le bas. Alors, c'est nouveau. Tout est relatif. Je voudrais quand même faire attention à pas penser que c'est un homme providentiel, tout à fait magique, qui invente tout, qui va tout réussir. On serait déçu. C'est la seule chose que je peux dire sur l'avenir politique de la ville de New York. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'effectivement, il assume des positions qui jusqu'à présent étaient marginalisées, voire réprimées, y compris par les démocrates, hein, parce que la question islamophobe, par exemple, elle traverse tout le spectre politique. Et les attaques qu'il y a eu contre la liberté d'expression, y compris à New York, qui a été un des épicentres de la protestation contre le génocide la dernière année du mandat de Joe Biden, et où les étudiants de Columbia University, par exemple, ont été fortement réprimés par la police de New York, envoyée par Eric Adams, mais aussi par Kamala Harris et par Joe Biden et par cette administration. Tout cela vient marquer le décalage très fort qu'il y a entre ce camp démocrate et Zohran Mamdani.
Nadia Marzouki, à ce sujet, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, ce que je voulais dire par rapport à l'homme providentiel et tout ça, je suis complètement d'accord avec vous. Je crois que ce qui a vraiment compté dans cette campagne et dans ce début de mandat, c'est la façon dont ça s'inscrit dans la tradition américaine de la politique inspirée, prophetic politics. Et on ne peut pas comprendre, je pense, le succès de Mamdani sans prendre en compte la dimension religieuse. Et là, je ne parle pas simplement de la religion de Mamdani, l'islam, l'autre effet 11 septembre qui est l'affirmation de cette génération de jeunes élus musulmans. Je parle de quelque chose de plus vaste, qui est vraiment la capacité à mettre au centre de cette campagne, de cette mobilisation, une forme de foi en un avenir meilleur, des valeurs de bienveillance, de solidarité, de croyance en un futur meilleur, et qui ont véritablement parlé aux gens sur le terrain, quelle que soit leur religion. Mais c'était parce que cette campagne, elle était exprimée dans ce langage prophétique qu'elle a fonctionné. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, je pense, bien comprendre, surtout dans le contexte peut-être français où on est plus méfiant par rapport au pouvoir du religieux, du spirituel sur les. Et mais ça a véritablement contribué à la force, à la de conviction de ces volontaires. Et d'ailleurs, Mamdani n'a pas arrêté d'insister sur le fait que sa campagne, elle se concentre sur les questions de justice sociale, de coût de la vie, etc. Mais pas seulement. Il a dit aussi, moi, je voudrais réintroduire de la joie en politique. Il a organisé une espèce de grande campagne de chasse au trésor. Enfin, voilà. Et c'est cette idée, bread and roses. Pas juste bread, pas juste du pain, mais aussi des roses. Donc, il y a vraiment une volonté de restaurer de la dignité, de la douceur, de la bienveillance dans les rapports humains. Et ça, dans le contexte de après un an de Trump, ça a vraiment eu un impact important.
Et donc redonner aussi son importance, sa légitimité à la politique, au-delà des discours tous pourris que l'on entend depuis le premier mandat de Donald Trump. Alors la question, pardon, du pouvoir d'achat, puisqu'on parle aussi de Mamdani comme maire de la ville, pour atténuer la crise du pouvoir d'achat, il a fait plusieurs propositions: rendre les bus de la ville gratuits, développer des services de garde d'enfants gratuits quand il coûte aujourd'hui l'équivalent de 1 700 € par mois, ce que les familles modestes ne peuvent pas s'offrir, créer des épiceries municipales pour fournir de la nourriture moins chère aux New-Yorkais les moins aisés, et geler les loyers des appartements réglementés par la mairie. Charlotte Rocoquillon, vous disiez tout à l'heure, ça n'est pas l'homme providentiel, Zoran Mamdani. Qu'est-ce qu'il peut et qu'est-ce qu'il ne peut pas en matière de logement ?
Alors, en matière de logement, il a le pouvoir de gérer le foncier de la ville, mais la ville n'a plus beaucoup de foncier à sa disposition après plusieurs décennies de politique de construction qui ont été transférées au secteur privé. Donc, il ne peut pas faire grand-chose de ce point de vue-là, et il va avoir besoin de la coopération de l'État de New York. C'est l'État de New York qui va avoir le pouvoir de par exemple, décider de contrôler, d'encadrer les loyers d'autres appartements. Lui, il peut participer au gel des loyers régulés existants. Mais si on veut étendre ce parc de logements-là, ça va être plus difficile. Par ailleurs, la construction de nouveaux logements, c'est quelque chose de difficile puisque ça prend du temps, que l'inflation fait que les coûts de la construction aujourd'hui sont encore plus élevés qu'auparavant, etc. Donc il va rencontrer des barrières institutionnelles. Mais justement, il a quand même gardé le cap de vouloir... répondre à sa promesse électorale d'améliorer le logement, parce que parmi ses électeurs, la coalition la plus importante, finalement, c'est celle des locataires. En fait, leur point commun, c'est qu'il y a énormément de locataires à New York et qu'ils sont tous étranglés, qu'ils vivent en coloc, qu'ils vivent éloignés, qu'ils vivent vraiment que pour les familles, c'est de plus en plus difficile. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler.
Mais juste un mot, parce que vous avez particulièrement étudié la gentrification à Harlem. C'est le thème de votre livre, Harlem, une histoire de la gentrification, aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Harlem fait partie des arrondissements de New York qui ont massivement voté pour Mamdani, ainsi que Brooklyn, Brooklyn Heights, Dumbo, des quartiers où la gentrification est presque, entre guillemets, terminée. Est-ce qu'on peut rétro-pédaler de cette gentrification ?
Non.
Les loyers ne baisseront pas. Les gens qui sont là, enfin, si les loyers baissaient de toute façon, les gens qui sont là ne partiraient pas. C'est terminé pour ces quartiers-là. Ils sont gentrifiés, ils sont transformés. Les cultures locales de ces quartiers sont soit captées, cannibalisées par la classe de gentrifieurs. Et d'ailleurs, l'électorat de Zoran Mamdani n'est pas les classes les plus populaires et les plus pauvres de la ville. C'est aussi les classes moyennes. La tranche de revenus qui a le plus voté pour lui, c'est ceux qui sont entre 30 et 300 000 dollars par an. Donc, c'est la classe moyenne juste avant les riches. Et c'est des gens qui sont déjà assez aisés, qui ont les caractéristiques d'être des urbains, qui vivent au cœur de la ville, qui veulent avoir accès justement le transport gratuit, avoir des services pour leur famille, etc. C'est une classe de gentrifieurs. Donc, ça c'est quelque chose de peut-être un petit peu plus nuancé. Il faudra voir ce qu'il fait concrètement et comment il les satisfait ou pas. Mais en tout cas, il a fait campagne et gagné dans une ville gentrifiée.
Une ville gentrifiée où, par ailleurs, on peut citer d'autres villes gentrifiées des États-Unis comme Boston, par exemple, où la maire Michelle Wu, qui a déjà plus de recul, qui a été élue en 2021, je crois, elle voulait aussi rendre gratuit le réseau de transport, augmenter le nombre de places en crèche, réguler les loyers. Elle n'a pas pu tenir toutes ses promesses. Alors, elle a réussi à rendre 3 lignes de bus gratuites, mais elle a eu, par ailleurs, d'autres obstacles, comme à Chicago aussi, où Brandon Johnson, que vous citiez tout à l'heure, a fait face à un référendum populaire qui a rejeté sa proposition de créer une taxe sur les transactions immobilières pour financer des services pour les sans-abri. À New York, le maire Zoran Mamdani devra faire preuve d'une forme de pragmatisme, peut-être à l'échelle de l'État de New York, puisque les taux d'imposition, il veut augmenter les impôts sur les grandes entreprises et les foyers les plus riches, sont décidés à Albany, la capitale de l'État. Mais a priori, il sait lui aussi manier l'art du deal, comme on dit. C'est ce qu'on a entendu en filigrane du discours de Donald Trump quand il l'a reçu à la Maison Blanche. Il était séduit. On aurait dit qu'il l'était.
Notre rencontre d'aujourd'hui m'a surpris. Il ne veut pas de criminalité, il veut construire des habitations, il veut faire baisser les loyers. Que de choses avec lesquelles je suis d'accord. Je compte bien l'aider, pas lui nuire. Parce que je veux que New York soit une ville formidable. J'adore New York, c'est là d'où je viens. J'y ai passé de nombreuses années et maintenant je suis ici. On avait beaucoup régressé avec le maire de Blasio, mais je pense que Mamdani peut faire des choses géniales.
Alors incroyable d'entendre Donald Trump tresser des louanges à Zoran Mamdani après tout ce qu'il a pu dire pendant sa campagne. Nadia Marzouki, c'est que le maire de New York aussi maîtrise l'art du deal ou du new deal, un peu des deux.
Oui, alors... En fait, Mamdani a beaucoup été décrié comme un espèce d'ovni, d'étranger, d'outsider. Mais Mamdani, quand on y réfléchit, c'est la quintessence de New York. Il est associé, avant d'être candidat, il est associé à deux choses. Que même si vous connaissez pas bien New York, ou même si vous n'y êtes jamais allé, vous connaissez les taxis. Vous savez que New York, c'est les taxis. Et vous savez que New York, c'est les food trucks, enfin les camions qui vendent des hot dogs dans la rue. Et Mamdani s'est illustré lorsqu'il était membre de l'Assemblée de New York par sa solidarité avec les chauffeurs de taxi et leur grève. Il a fait la grève de la faim avec eux devant la mairie de New York en 2021 lorsqu'ils étaient complètement secoués et submergés par la dette qui était la leur pour payer leur médaillon. Et par ailleurs, il s'est aussi mobilisé pour aider à lutter contre l'endettement de ses vendeurs de rue. Donc c'est deux choses qui sont éminemment new-yorkaises. Donc on a beau dire il est pas né aux États-Unis, il est musulman, il est ceci, il est cela. En fait, pour beaucoup de New-Yorkais, Mamdani, c'est les chauffeurs de taxi et les food trucks, et c'est on ne peut plus New York. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que en effet, il a été beaucoup dépeint comme cet utopiste, idéaliste, etc. Or on verra à l'usage, mais il s'est révélé pendant toute la campagne comme un très habile tacticien, quelqu'un qui réfléchit de façon très pragmatique à la construction d'alliances, qui sait ne pas se faire d'ennemis inutiles. Par exemple, il a fait le choix de garder la commissaire Tish, Jessica Tish, à la tête du NYPD parce qu'on ne peut pas gouverner New York contre le NYPD.
Le New York Police Department, dont son prédécesseur à la mairie de New York, Eric Adams, était membre. Donc lui, il arrive avec une légitimité moindre aux yeux des policiers.
C'est ça. Et Jessica Tish, qui est vraiment cette personne issue d'une famille très, très fortunée, pas du tout d'accord avec Mme Dany sur les questions Israël-Palestine, etc. Il a décidé de la garder en place parce qu'elle avait fait du bon travail en ce qui concerne la lutte contre la corruption à l'intérieur du département de la police de New York, etc. Donc là, c'est par exemple un exemple de pragmatisme. Quand vous regardez également la constitution de son équipe, il y a que des personnes extrêmement expérimentées. Dean Fuleihan, le maire adjoint, dont on dit, il a 40 ans d'expérience dans le service public, il était déjà l'adjoint de Blasio, on dit de lui qu'il sait où sont enterrés tous les cadavres, enfin, voilà. Et pareil pour la question du logement, il a gardé Leila Borzog, qui était déjà en place dans l'administration Adams, qui s'occupait du logement. Donc, il a vraiment cette capacité à s'entourer de personnes qui sont dans la continuité, qui sont expérimentées, et également de veiller à ne pas tomber dans le piège, ce qu'on appelait le piège Obama. C'est-à-dire qu'il y avait tout cet enthousiasme des gens qui se sont mobilisés pour Obama, et puis c'est retombé. Lui, il est très conscient de ce risque. Il a mis en place le Office of Mass Engagement. Bon, c'est un peu bizarre en français, le bureau de l'engagement de masse. C'est-à-dire un département au sein de la mairie de New York, confié à Tasha Van Auken, qui était sa stratège de campagne, pour garder en vie toute cette énergie de ses volontaires qui étaient avec lui pendant la campagne.
Alors jusqu'où toute cette énergie pourra par ailleurs s'opposer aux directives de l'État fédéral quand il s'agira de le faire, puisque de longue date, déjà New York, qui est par exemple une ville sanctuaire, donc une ville qui ne répond pas aux injonctions de la police fédérale quand il s'agit de faire arrêter des immigrés, y compris en pleine rue, jusqu'où pourra-t-elle aller? Jusqu'où pourra-t-elle porter une forme de bras de fer, Charlotte Coquillon, avec l'État fédéral?
Alors, les municipalités ont un certain pouvoir là-dessus, mais qui reste limité. Parce que même si on peut interdire la coopération du NYPD, par exemple, avec ICE ou les autorités fédérales, alors ça peut vouloir dire l'interdiction de communiquer des listes de personnes ou leur casier judiciaire, ou quand il y a des états, par exemple, où si quelqu'un est arrêté pour un défaut de clignotant à une intersection, la police qui ensuite a cette infraction peut rapporter à la police fédérale que cette personne est un immigré ou une immigrée. Donc, avec ou sans document. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être interdites localement par les mairies, par les municipalités ou les comtés. Il y a des décisions, par exemple aussi à Los Angeles, où ils ont interdit aux policiers de ICE, d'être masqués.
Donc, ICE, Immigration and Customs Enforcement, on a consacré pas mal d'émissions à ce sujet, mais c'est la lutte contre l'immigration clandestine.
Mais donc ce sont des mesures qui peuvent être prises, mais et peut-être que là, ce serait intéressant de voir comment Trump, parce que là, on se demande comment Zohan Mamdani se positionne par rapport à Donald Trump. Et lui, pour l'instant, il a décidé de mener une politique qui n'est pas en opposition à Donald Trump. Il s'occupe des New-Yorkais, comme vous le rappeliez il y a quelques instants, et il fait une politique municipale. Mais est-ce que Donald Trump va le prendre pour cible et décider d'y déployer de manière visible la police, par exemple, pour attaquer? Je ne sais pas.
Nadia Marzouki, en quelques mots.
Oui, je voulais juste. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous que voilà, il est très probable que son pouvoir soit limité par l'opposition à un moment du gouvernement fédéral. Mais c'est vraiment, je pense, le rôle des New-Yorkais qui va jouer là dans le renforcement de son pouvoir par rapport à l'administration Trump s'il devait y avoir un conflit. Et tout ce que je disais tout à l'heure sur la politique inspirée gérer, contribue à ce, au-delà de New York, ville sanctuaire, du statut juridique précaire de ce que signifie être une ville sanctuaire, c'est au niveau de la signification de ce que fait Mamdani, qui est de la sanctuariser la cité contre cette sacralisation du national qui est le propre du MAGA et du populisme de Trump. Et les New-Yorkais se sentent concernés par ça. Et donc, c'est si les New-Yorkais vont dans la rue pour protéger des migrants contre les arrestations à Federal Plaza, donc quand, là où ICE arrête les personnes, par exemple, ça peut contribuer à avoir un effet après boule de neige de prise de confiance des habitants de la cité. Mais c'est vraiment cette dimension à la fois sur le plan juridique et politique, mais aussi sur le plan symbolique des émotions qui compte.
Le plan symbolique des émotions, et vous parliez tout à l'heure de la joie, remettre de la joie en politique, c'est un mantra du nouveau maire de New York qui a fait entendre Talking Heads pendant sa cérémonie d'investiture. This must be the place du groupe new-yorkais The Talking Heads qui figurait dans la liste de musique choisie par Zoran Mamdani pour son investiture le 1er janvier dernier. C'est le premier épisode de notre série sur les villes face aux États pour commencer cette année municipale en France par ailleurs. Aujourd'hui à New York, laboratoire de l'anti-Trumpisme. Depuis que Zoran Mamdani a été élu maire de la ville le 5 novembre avec 50,4% des voix, même si nos invités Charlotte Rocoquillon et Nadia Marzouki nous ont bien dit que au-delà de l'opposition à Donald Trump, c'était vraiment un maire de tous les New-Yorkais qu'il souhaitait être. Certains ont quand même tout fait pour le faire perdre. Ce sont les acteurs de la finance états-unienne, pour beaucoup situés à Wall Street, New York City.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Il faut que tous les Américains participent au capitalisme. Si tous les Américains ne participent pas au capitalisme, on se retrouve avec un groupe d'Américains qui s'en sortent bien et un groupe d'Américains qui sont rancuniers. Et ça conduit au socialisme. Nous en avons la preuve près de chez nous, dans la ville que j'aime et où je vis.
La déclaration ici formulée comme une menace de Bill Ackman, patron du fonds d'investissement Pershing Square. Le million de dollars qu'il a dépensé pour financer la campagne de l'adversaire démocrate de Zoran Mamdani n'aura pas suffi à le faire gagner. Comment les grands patrons de Wall Street ont-ils réagi à l'élection de Zoran Mamdani, qui entend bien augmenter les impôts sur les grandes entreprises pour financer son programme social? Bonjour Hugo Fralin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire en classe préparatoire et membre du CENA, le Centre d'études nord-américaines à l'EHESS. Vous préparez une thèse en ce moment intitulée « Lehman Brothers et les mondes financiers new-yorkais, une histoire sociale des élites bancaires de 1918 à 2008 ». Alors si vous le voulez bien, on va partir de l'élection la plus récente, celle du nouveau maire de New York, et remonter le temps pour voir comment ont évolué les positionnements politiques des géants de Wall Street, en tout cas de leurs représentants. Zoran Mamdani, d'abord, est-ce qu'il a pu compter sur l'un d'entre eux, au moins un, pour financer sa campagne?
Non, alors ça a été extrêmement rare, et quand il a pu soulever quelques fonds auprès de la finance, c'était des donations qui n'allaient pas au-dessus du million de dollars, si vous voulez, ce qui est très faible à l'échelle de Wall Street. que, comme vous l'avez rappelé, Wall Street, en tout cas le monde de la finance new-yorkaise, s'est massivement mobilisé contre Mamdani en 2025 et a financé, à l'inverse, son rival Cuomo, qui est membre du Parti démocrate lui aussi, mais d'une ligne beaucoup plus modérée. Vous avez cité par exemple Bill Ackman, on pense à Dan Loeb aussi de Third Point, des gens qui sont massivement mobilisés contre Mamdani pour plusieurs raisons.
Alors que ce sont des hommes d'affaires qui ont déjà dans le passé financé le Parti démocrate. Là en l'occurrence, ils ont financé l'adversaire démocrate de Zohran Mamdani, mais ce ne sont pas des anti-partis démocrates.
Oui, tout à fait. Si vous voulez, l'État de New York est quand même très spécifique à l'échelle des États-Unis. C'est un État où le monde de la finance est tout à fait, entre guillemets, ouvert aux deux partis à partir du moment où les représentants de ces partis s'accordent sur les fondamentaux de l'économie, c'est-à-dire être favorable à l'économie de marché, ne pas taxer excessivement les grandes entreprises, être favorable à des droits de douane faibles. Bon, à partir du moment où un démocrate ou un républicain propose cela, Wall Street est tout à fait ouvert à un soutien financier. Vous avez cité Bill Ackman. Bill Ackman a été tout à fait opposé à Mamdani, mais dans le passé, il a pu financer Hillary Clinton en 2016, par exemple. Donc la question est pas tellement démocrate ou républicain que la posture vis-à-vis de l'économie, soit une posture populiste protectionniste du côté de la droite, soit une posture très favorable à des hausses d'impôts du côté de la gauche. Ça, Wall Street va le refuser pour le coup.
En revanche, le candidat républicain à la mairie de New York n'a pas, à ma connaissance, reçu tellement de soutien financier de la part des responsables de Wall Street.
Non, pas du tout. Tout simplement parce que la sociologie électorale new-yorkaise étant ce qu'elle est, à l'heure actuelle, en tout cas en 2025, il était impossible pour un candidat républicain de gagner. Mais vous voyez, sur le plan des positions économiques, peu de choses différenciaient le candidat républicain d'Andrew Cuomo, par exemple, alors qu'ils sont de partis différents.
Alors, certains sont quand même bons perdants. Le patron du fonds d'investissement Pershing Square, donc Bill Ackman, a félicité Zohran Mamdani pour sa victoire sur son réseau social X et il lui a adressé ce message. « Si je peux aider New York, dis-moi simplement ce que je peux faire. » Donc, pas question de quitter New York, a priori, pour tous ces responsables, soit de fonds d'investissement, soit de grosses entreprises ou de banque ?
Non, je ne pense pas, ou en tout cas pas à court terme. Là, la déclaration de Bill Ackman, elle est tout à fait classique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un candidat a gagné, un petit peu comme Trump en 2024, il faut se résoudre à travailler avec la future administration et, entre guillemets, montrer patte blanche. Bon. Et moi, je ne vois pas, en tout cas à l'heure actuelle, dans le court terme, des grandes sociétés financières quitter. Peut-être que si Mamdani met véritablement en place certaines des mesures de son programme, il y aura ce point-là. Mais à court terme, c'est peu probable.
JP Morgan vient tout juste d'inaugurer un nouveau siège à 3 milliards de dollars à New York. Donc, il est peu probable, en effet, qu'il décide finalement de quitter la ville. Alors, lors de l'élection présidentielle, cette fois en 2024, en quelques mots, Hugo Fralin, on s'éloigne un petit peu de l'échelle municipale, mais c'est intéressant de voir comment s'étaient positionnés ces mêmes représentants de Wall Street. Après tout, le protectionnisme de Donald Trump peut aussi faire peur au milieu d'affaires.
Oui, tout à fait. On en revient à la distinction démocrate et républicain. Si vous voulez, lors de l'élection de 2024 entre Trump et Harris, le monde de la finance était plutôt divisé, puisque déjà on avait l'expérience en termes de gouvernement des deux, puisque Trump avait déjà fait un mandat et Kamala Harris avait été vice-présidente. Bon, et tous les deux avaient gouverné d'une manière relativement favorable aux grands intérêts de la finance, ce qui fait que on a eu des répartitions des dons, en tout cas du financement de campagne, qui étaient assez proches. Ce qui effrayait dans le cas de Trump, c'était ses velléités protectionniste, le désir de remettre en cause le libre-échange et j'irais même jusqu'à dire certains des membres de son administration qui peuvent être des nationalistes et des protectionnistes. On pense à J.D. Vance ou à Peter Navarro, des gens qui sont vus de manière beaucoup plus négative par certains.
Alors que d'autres, en revanche, ont totalement rejeté les droits de douane. Par exemple, la crise avec la Chine, notamment le 2 avril dernier, une chute boursière au printemps qui a révélé que ça ne plaisait pas à tout le monde du côté de Wall Street. Est-ce qu'aujourd'hui, certains dirigeants de cet establishment, pour reprendre les mots de Charlotte Recoquillon, financier et économique à Wall Street, sont engagés politiquement auprès de Donald Trump, comme c'est le cas de plusieurs dirigeants de la tech, cette fois dans la Silicon Valley?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai envie de dire, Wall Street a un petit peu ses entrées au sein de l'administration républicaine, avec deux membres essentiels. On pense d'une part à Scott Bessent, qui est secrétaire au Trésor, donc l'équivalent de notre ministre des Finances, qui est le patron du hedge fund Key Square Group, et Howard Lutnick, qui est secrétaire au commerce, qui lui était patron de Cantor Fitzgerald, donc toutes les deux des firmes new-yorkaises qui ont leurs entrées dans le monde de la finance. Et en l'occurrence, ces deux ministres, ces deux secrétaires, Lutnick et Bessent, sont des libre-échangistes complètement opposés aux droits de douane, et ils ont joué un rôle essentiel dans l'apaisement des tensions après l'annonce du 2 avril 2025. Comme vous l'avez rappelé, Wall Street a été considérablement vent debout contre ces droits de douane, et Bessent et Lutnick font partie des personnes qui ont justement mis de l'apaisement dans cette politique.
Merci beaucoup Hugo Fralin d'avoir été avec nous, professeur d'histoire en classe préparatoire, membre du Centre d'études nord-américaines à l'EHESS. Merci beaucoup. J'ajoute que Zoran Mamdani s'est d'ailleurs attiré les foudres de ses responsables de Wall Street en nommant co-dirigeante de son équipe de transition municipale cette juriste Lina Khan, qui s'était bien fait connaître sous Joe Biden pour sa lutte contre la position dominante d'Amazon et des GAFAM en général, et sans doute aussi qu'à Wall Street on se sent concerné. Peut-être pour conclure, Charlotte Recoquillon et Nadia Marzouki, un mot sur d'autres villes. Là, on a vraiment parlé de New York dans cette émission, mais il y a d'autres villes, il y a eu d'autres élections municipales en novembre dernier qui sont menées aujourd'hui par des élus qui se veulent véritables forces d'opposition à Donald Trump. Lesquelles peut-on citer, Charlotte Recoquillon?
Alors, dans les endroits qui se sont affirmés dans l'opposition pour le coup directe à Donald Trump et aux attentats. Alors, donc, j'ai mentionné tout à l'heure Chicago, c'est une ville importante. Aussi, elle a été attaquée par Donald Trump, donc ça l'a obligé à réagir. Et ça a été le cas aussi à Los Angeles et en Californie, dont le gouverneur Gavin Newsom a des vues sur la prochaine élection présidentielle et dont il espère a priori être candidat. C'est un secret de Polichinelle, je crois. Mais c'est intéressant, la Californie, parce que de manière très... convaincu, on va dire qu'il y a une opposition très, très forte et très franche à Donald Trump, mais en même temps, la politique migratoire qui est menée actuellement, très, très hostile aux personnes migrantes, s'appuie sur des infrastructures du complexe carcéro-industriel très, très importantes en Californie. Donc, il y a un peu un double jeu, mais une coopération aussi quelque part de cet État. Et ça, il me semble que ce double jeu est intéressant à regarder pour comprendre un petit peu au-delà d'une opposition un peu manichéenne et simpliste de pour ou contre Trump.
Nadia Marzouki.
Oui, juste peut-être pour pas terminer sur l'image d'un maire d'office impuissant, rendu impuissant par la structure de son rapport à la finance et au gouvernement fédéral. Tout ça est vrai, mais il est quand même à la tête d'un budget. Le budget de la ville de New York, c'est 115 milliards. Il peut faire des choses. Il a une capacité de persuasion et d'alliance assez phénoménale. Sherif Suleiman, le directeur du budget, n'est pas un homme inexpérimenté. Il était à la tête des finances de CUNY pendant plusieurs années. Il a aussi la possibilité, Mamdani a aussi la possibilité par rapport à cette question des logements, de négocier qui va faire partie du Rent Guidelines Board. Donc, il peut nommer des gens pour arriver à ses fins sur cette question des loyers. Donc, il a quand même à disposition un budget, une équipe expérimentée, la capacité d'émettre des ordres exécutifs et surtout de trouver des équilibres dans les instances décisionnaires. Bien sûr, ça ne fera pas tout, mais je pense qu'il qu'il faut quand même ne pas le laisser commencer son mandat avec cette idée qu'il est d'emblée rendu impuissant par la finance et par l'administration fédérale.
Et une gouverneure démocrate de l'État de New York, Katie Hochul, qui au départ ne le soutenait pas, mais qui a fini par être convaincue, ce qui va sans doute lui faciliter le travail. Et on peut, parmi d'autres villes états-uniennes qui ont soit basculé du côté démocrate, soit aujourd'hui se présentent comme force d'opposition. Il y a Miami, par exemple, qui a élu la démocrate Eileen Higgins à près de 60% contre le candidat républicain après 28 ans du parti républicain au pouvoir. Miami, ville à laquelle Donald Trump est particulièrement attaché par ailleurs. Merci beaucoup Charlotte Recoquillon et Nadia Marzouki d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Harlem, une histoire de la gentrification, paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Charlotte Recoquillon. L'islam, une religion américaine, point d'interrogation, Nadia Marzouki, paru au Seuil. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et Donald Trump, justement, l'affirme, les États-Unis sont aux commandes du Venezuela. Après la capture, comme il dit, du président Nicolas Maduro, qui doit être présenté aujourd'hui à un tribunal de New York pour des accusations de trafic de drogue, plusieurs journaux se demandent ce matin si cette opération de la Maison-Blanche ne va pas fracturer le camp MAGA.
Donald Trump avait fait campagne sur la promesse de ne plus jamais entrer en guerre, convoitant ensuite le prix Nobel de la paix. Le républicain avait même clamé haut et fort, dès son premier mandat, son aversion pour les changements de régimes étrangers provoqués par Washington, rappelle Axios. Mais le président des États-Unis préfère aujourd'hui projeter une image de force et tester les limites de l'autorité présidentielle, analyse le Washington Post, même si cela met à mal son image anti-interventionniste. Ce revirement inquiète la base électorale MAGA, constate la revue The Atlantic. Le New York Times s'interroge. Que devient le slogan trumpiste « America first », l'Amérique d'abord, en rupture avec la politique étrangère de l'ère Bush qui avait conduit à des années d'enlisement en Irak ou en Afghanistan. Alors si le chef de la diplomatie Marco Rubio a tenté de rassurer hier sur le plateau télévisé de CBS, plus de troupes états-uniennes déployées sur le terrain. Au Venezuela, ajoute la NPR, l'absence de clarté autour d'une éventuelle occupation laisse les électeurs perplexes, voire en colère, prévient dans son podcast War Room Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump, toujours influent dans la sphère républicaine. Des critiques sont également venues d'une poignée de républicains au Congrès, tels que la représentante Marjorie Taylor Greene, élue en Géorgie. Cette fervente militante du mouvement MAGA, partisane de longue date de Donald Trump, s'est récemment brouillée avec le président, rappelle NBC News, critiquant son manque de transparence sur les dossiers Epstein. Marjorie Taylor Greene en rupture également avec la Maison-Blanche sur la définition de l'Amérique d'abord et de la politique à mener pour les États-Unis, notamment dans la guerre contre le narcotrafic.
If this was really about narco-terrorists and about protecting Americans from cartels and drugs being brought into America, the Trump administration would be attacking the Mexican cartels.
Si le véritable enjeu était de lutter contre les narcoterroristes et de protéger les Américains des cartels et du trafic de drogue, l'administration de Trump s'attaquerait aux cartels mexicains. Alors, je ne défends pas Maduro, se presse d'ajouter la républicaine Marjorie Taylor Greene, qui se réjouit aussi pour le peuple vénézuélien, mais elle dénonce la stratégie de Washington, qui ne sert pas, dit-elle, les intérêts du peuple aux États-Unis, mais ceux des grandes entreprises, des groupes pétroliers, des banques, au lieu de prioriser les politiques intérieures pour l'emploi, pour un logement abordable, pour la santé, énumère Marjorie Taylor Greene. L'élue républicaine de Géorgie, qui siège d'ailleurs pour la dernière fois aujourd'hui au Congrès, s'en prend aux intérêts des grands donateurs qui financent les politiciens influents et aux lobbies qui arpendent constamment les couloirs à Washington et qui ont visiblement l'oreille de Donald Trump. Le président explique, lui, qu'il est dans l'intérêt des États-Unis de s'entourer de bons voisin d'exploiter aussi le pétrole au Venezuela qui abrite les plus grandes réserves de brut connues au monde, rappelle Fox Business et le Wall Street Journal. Mais attention, prévient le quotidien financier. La flambée des prix et les problèmes économiques risquent de plomber le camp républicain lors des élections de mi-mandat en novembre prochain. Certains segments de la base électorale réputée pour son dévouement à Donald Trump lui reprochent aujourd'hui de trop se concentrer sur les affaires étrangères, analyse le Washington Post. Iran, Nigeria, Syrie et désormais Venezuela, pour rassurer sa base, Donald Trump aurait prévu de tenir des meetings quasi hebdomadaires, affirme le Washington Post, pour vanter le bilan de sa première année de retour à la Maison-Blanche.
Donald Trump qui a aussi convoqué la doctrine Monroe pour justifier cette attaque militaire.
La doctrine Monroe, du nom du cinquième président des États-Unis, James Monroe, qui affirmait il y a plus d'un siècle, rappelle The Hill, la suprématie incontestée des États-Unis sur l'ensemble des Amériques et notamment l'Amérique latine. Cette doctrine est remise au goût du jour sous le nom de doctrine Donroe, mot valise, qui rassemble le nom des deux présidents, Donald Trump et Monroe. Et pour le magazine Washington Monthly, il s'agit d'un tournant historique. Cette doctrine Donroe affirme le droit des États-Unis de destituer unilatéralement tout régime latino-américain jugé criminel ou peut-être pour une simple opportunité commerciale. Donald Trump a d'ailleurs multiplié les menaces hier contre la Colombie et son président de gauche, Gustavo Petro, rapporte Caracol Radio et les quotidiens El Tiempo et Universal en Colombie. Et puis Donald Trump lorgne du côté du Groenland, aujourd'hui encerclé par des navires russes et chinois, alors que c'est un territoire stratégique pour la sécurité des États-Unis, a-t-il déclaré hier, ce qui inquiète le journal groenlandais Sermitsiaq et le quotidien danois Politiken. Le premier ministre du Groenland, territoire autonome danois, affirme lui que ce n'est pas ainsi qu'on s'adresse à un peuple qui a maintes fois fait preuve de responsabilité et de loyauté, et de souligner que les relations entre les pays et les peuples sont fondées sur le respect et le droit international, rapporte Sermitsiaq et Axios.
Merci beaucoup Catherine Dutu.